La semaine dernière, vous étiez avec notre frère Andou qui vous a parlé de Paul, qui un petit peu donnait les preuves de son ministère et puis aussi ce que le Seigneur avait fait à travers lui, c'est-à-dire que ce qu'il était, c'était la grâce de Dieu finalement. Et ce que nous sommes, c'est aussi la grâce de Dieu. C'est, bien sûr, l'homme fait des efforts après sa conversion, mais c'est parce que le Seigneur agit en lui. Par nous-mêmes et par nos propres forces, on ne serait pas grand-chose et on ne pourrait pas grand-chose non plus. Eh bien, on va prendre la suite de ce chapitre, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 19. Auparavant, je fais une petite pause. J'ai peur d'oublier ce que Dominique me l'a dit en passant. Mercredi, on a étude biblique à 17h30. Il paraît que c'est la grève. Est-ce que ça gêne des personnes pour venir? Pas de bus mercredi. C'est un problème? Ni tram, ni... Il reste les pieds et les trottinettes. Si ça pose souci, on décale l'étude biblique. Est-ce que ça pose souci à quelqu'un? Mercredi. Non? C'est bon? Dominique? Bon, on en parle après. Hein, on en parle après. Mais a priori, on gardera l'horaire, mais on en parle après. Okay. Alors, on va continuer. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 19. Et avant de lire, je vais prier. Seigneur, apporter ta parole est une lourde charge, Seigneur, et c'est aussi une responsabilité pour ceux qui écouteront, parce que, Seigneur, nous ne voulons pas que ta parole rentre dans une oreille et ressorte tout de suite de l'autre. Entre les deux oreilles, il y a un cerveau, Seigneur, et nous voulons que ta parole pénètre en nous, Seigneur, dans notre intelligence, pour que nous puissions la comprendre, pour que nous puissions la laisser agir afin qu'elle nous transforme, Seigneur, comme tu veux que nous soyons à l'image de ton Fils. Seigneur, parle-nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, voici ce que Paul dit à l'église de Corinthe, à ses frères de Corinthe. Si l'on prêche... Alors, il fait la suite, la transition avec les versets suivants, mais il dit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors vous avez compris la thématique, la résurrection des morts. Alors c'est un fait incontestable hein, quand on connaît la Bible, mais c'est pourtant contesté là, à l'époque de Corinthe. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va, excellent pédagogue, il va bien prendre le temps de leur expliquer, il va bien prendre le temps de leur rappeler les faits de la résurrection, puis en même temps de dire ce que ça implique de contester cette doctrine. Alors on va voir ensemble ce que dit la Bible justement ce matin sur ce sujet-là, puis ce que ça implique aussi de ne pas croire dans la résurrection des morts finalement. Arrêtons-nous tout d'abord sur les deux premiers versets, 12 et 13. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Alors, Paul, il affirme, voilà, comme je viens de le dire, hein, c'est un fait réel, la résurrection des morts, la résurrection de Christ. Mais pourtant, il y avait un problème dans l'Assemblée. Voilà, parfois, il y a des points de doctrine entre nous, on est des chrétiens, et pourtant, on n'est pas toujours en accord sur tout ce que peut... Non, pas ce que dit la Bible, mais la façon dont nous interprétons. Voilà. Pourtant, ce n'était pas un seul conducteur à Corinthe. Enfin, il y avait plusieurs conducteurs qui s'étaient reliés. Vous vous rappelez, il y avait Paul, mais avant lui, il y avait eu Pierre, et il y avait eu Apollos. Donc, c'était toujours le même message qu'il transmettait. On va relire 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Voilà le message qui avait été transmis de nombreuses fois à Corinthe, c'était une répétition. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, donc Christ est mort, Christ a été enterré, hein. Enfin, du moins il était mis dans un tombeau, dans une sorte de grotte. Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà, donc Paul leur rappelait, voici en quoi consiste la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc c'est que Christ meurt, À Golgotha, il est cloué à la croix, il meurt pour les péchés du monde. C'est lui, il est juste, entièrement juste, et il meurt pour nos péchés à nous qui sommes injustes. C'est l'amour de Dieu qui est manifesté ici. Il est mis au tombeau, et le troisième jour, il ressuscite. Et là, on voit la puissance de Dieu qui, le Seigneur, réussit à vaincre la mort, il terrasse la mort, il ressuscite, et voilà, il revient à la vie. La mort de Christ sur la croix, ce n'est pas la défaite d'un homme et d'une idéologie humaniste, ce que certains pensent. La mort de Christ sur la croix, c'est l'expression parfaite de Dieu pour les êtres humains. C'est l'expression parfaite de Dieu pour les êtres humains. Christ meurt une fois pour toutes, pour vos péchés, pour mes péchés. Et après, il vainque la mort et on pourra vivre la vie éternelle avec lui si on lui donne son cœur. Voilà le message du salut que disait Paul et qu'il nous rappelait aussi à travers le début du chapitre. Alors la raison de résurrection de Christ, c'est pas non plus une fable pour les amateurs de science-fiction. Ils ont bien les choses un peu surnaturelles, mais c'est pas ça non plus. C'est la preuve de la victoire éclatante de Christ sur la mort. Donc je le répète, mais c'est très important, vu que c'est ce que les Corinthiens n'arrivaient pas bien à saisir. Alors effectivement, il y avait de la contestation. Il paraît que les Français sont râleurs et contestataires. Les amis étrangers, vous confirmez ou pas? Amen. T'es pas étranger, Hugo, t'as pas le droit de répondre, toi. Enfin, un peu quand même, donc double culture, c'est vrai, marié à Emma qui est roumaine. Bon, il paraît que le français est contestataire, râleur, voilà, c'est notre image. Le Corinthien aussi n'est pas mieux, le Corinthien est rebelle, la preuve. Contre Paul, il avait souvent, notre frère avait souvent du mal à les reprendre et à les redresser. C'est jamais anodin de contester une doctrine enseignée dans l'Église, c'est jamais anodin, effectivement. Alors, ça peut témoigner de plusieurs problèmes quand certains contestent une doctrine dans l'Église. Ça peut être un problème avec le prédicateur. Effectivement, il peut y avoir le prédicateur qui enseigne quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible. Personne n'est parfait, Personne n'est parfait, Ça peut arriver à tout le monde. Nous essayons bien sûr d'être très prudents et de ne pas faire d'erreur, mais parfois il peut y avoir un prédicateur qui vient au micro, qui va se tromper ou faire une erreur de doctrine, ce qui peut arriver. C'était pas le cas à Corinthe. Parce qu'on a vu, l'enseignement de Paul, d'Apollos et de Pierre, c'était du très très haut niveau. Il n'y a bien entendu aucune faille dans leurs études. Ça peut être aussi, quand il y a une contestation, qu'il y a un certain désordre dans l'Église. C'était le cas à Corinthe. Un peu de rébellion, un petit peu, chacun voulait se montrer le plus fort, le plus spirituel, etc. C'est ce qu'on voyait à Corinthe. Il y a aussi le fait de ne pas vouloir soumettre aux autorités. Alors, je ne sais pas si c'était le cas à Corinthe, mais parfois, voilà, le fait de dire, voilà, il y a cette personne qui est appelée à la prédication... on va un petit peu être contestataire. Donc ça, c'est pas très bon, par contre, c'est négatif. Si c'est le prédicateur qui se trompe, là, évidemment, c'est légitime. Si c'est pour d'autres raisons, on le voit avec l'église de Corinthe, faut peut-être revoir un petit peu son cœur. Alors, bien sûr, aucun prédicateur n'est infaillible, je l'ai dit, on peut se tromper, on a des doctrines qui peuvent évoluer aussi, il y a des choses sur lesquelles on prend position un moment, puis après, avec une meilleure compréhension de la parole, on peut éventuellement aussi changer d'avis. Chacun peut commettre des erreurs. Mais en tout cas, si un jour, ou dans votre assemblée, vous contestez une doctrine, ce qui est important, ce n'est pas de contester juste avec votre jugement sur la base de « je crois que, j'ai toujours entendu que, on m'a toujours dit que, et j'ai toujours pensé que ». Ça, c'est jamais bon. Quand vous contestez une doctrine, si vous êtes en désaccord, première chose à faire, il n'y en a qu'une seule, posez-vous une seule question, c'est « que dit la Bible ? Que dit le texte ? Je ne suis pas tout à fait en phase, je ne crois pas avoir compris le texte de la même façon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que dit la Bible? Alors pour être concret ce matin, on va prendre l'exemple des Corinthiens, de la résurrection des morts et de Christ, et puis on va regarder, quand on n'est pas sûr d'une doctrine, qu'est-ce qu'il faut faire en ouvrant la parole de Dieu. Ici, le thème qui est contesté, c'est quoi? La résurrection des morts, tout particulièrement. Mais la résurrection. Donc premièrement, vous ouvrez votre Bible et vous regardez, vous étudiez ce que dit la Bible sur ce thème en général. Que dit la Bible de la résurrection? On va déjà regarder, on aura une démarche en entonnoir comme ça. D'abord, on va partir au sens large. La résurrection. Que dit la Bible de la résurrection? Alors déjà, il ne faut pas se tromper sur les mots. Regardez dans le dictionnaire la définition du mot. Résurrection, ça vient du latin. Résurgere. Pas si mon accent est formidable, mais bon, voilà. Résurgere. Ça veut dire se relever. D'accord? En latin. Se relever. La définition du Larousse, c'est le retour de la mort à la vie. Vous voyez l'image, c'est que Christ est mort, il est ressuscité, il revient à la vie, il est vivant de nouveau. Donc première chose, regardez bien le dictionnaire, vous ne trompez pas sur le sens du mot. Il ne faut pas confondre résurrection et réincarnation. Je l'ai déjà dit, mais attention, parce qu'il y a d'autres enseignements qui parlent d'autres spiritualités, d'autres religions, etc., qui parlent de réincarnation. Revenir dans la chair, carner, ça veut dire, c'est complètement autre chose. C'est quelqu'un qui meurt et qui reviendrait dans la peau de quelqu'un d'autre. D'accord ? Revenir dans une autre chair. Ça, c'est des enseignements qui peuvent être faits notamment au Brésil. Je sais que le spiritisme est très important chez vous encore. Donc ça, c'est plutôt la doctrine, d'accord ? Quand vous regardez dans la Bible, il n'y a jamais le concept de réincarnation. On parle de résurrection. Mais le plan de l'ennemi, c'est toujours de copier Dieu et de vous tromper. D'accord ? Donc il dit, d'accord, dans la Bible, c'est la résurrection. Ben, l'ennemi met l'idée de réincarnation. On pourrait penser que c'est un peu similaire, mais ce n'est pas du tout pareil. D'accord ? La résurrection, c'est un mort qui revient à la vie. La réincarnation, c'est un mort qui revient dans un autre corps. Ça n'a rien à voir. Quand Jésus-Christ a ressuscité, il n'est pas ressuscité dans une vache. Il n'est pas revenu, pardon, réincarné dans une vache. Okay ? Ou dans la peau d'un autre. Quand Christ est apparu aux disciples après sa mort, il est bien revenu en tant que Jésus-Christ dans son corps à lui. D'accord ? Donc, c'est deux concepts très différents. Regardez ce que dit la Bible dans Hébreux 9, 27. Je répète un petit peu parce que vous n'étiez peut-être pas là il y a 15 jours, et puis peut-être que ceux qui écoutent le message sur Internet n'ont pas écouté le message précédent. Voici ce que dit la Bible dans Hébreux 9, 27. Il est réservé aux morts de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc ne pensez pas que vous allez revenir 1000 fois jusqu'à temps que vous soyez parfait pour atteindre le nirvana ou je ne sais quoi. Non, la Bible est très claire. Les hommes meurent une seule fois et après il y a un jugement. D'accord ? Donc, n'attendez pas la prochaine vie pour vous améliorer. C'est une fausse idée de l'ennemi. C'est un, voilà. La doctrine de la Bible, c'est la doctrine de la résurrection. Donc, un mort qui revient à la vie dans son propre corps. Alors, il faut regarder donc, dans la Bible ce concept de résurrection. Est-ce qu'il y a des exemples de résurrection dans la Bible ? Vous regardez les thèmes. Est-ce qu'il y a des exemples de résurrection dans la Bible ? Alors, dans l'Ancien Testament, est-ce que vous savez s'il y a des exemples de résurrection ? Ouais. Il y en a combien, à votre avis ? Il y en a plusieurs ?
Un seul ?
Je vois qu'ils cherchent. Ouais. Dans l'Ancien Testament, on va découper la Bible en deux, même en trois. Il y a des bons élèves là qui sont en train de compter sur les doigts et tout. Allez, je vous aide. Enfin, je vous donne même la réponse. Il y a trois résurrections dans l'Ancien Testament. Trois, facile, la Trinité, vous rappellerez. Il y a le fils de la veuve de Sarepta avec Élie. Voilà. Et ensuite, il y en a deux avec le prophète Élisée. C'est le fils de la Tsunamite. Voilà. Et puis, à un moment, il y a Élie donc, qui est mort, il est enterré. Ils ont un mort, il se passe quelque chose. Le mort tombe juste à côté du corps d'Élie et il ressuscite ce mort-là également. On va regarder le premier épisode, le fils de la veuve de Sarepta. C'est dans 1 Roi, chapitre 17, 17 à 24. Ces trois résurrections sont dans les livres des rois. Le premier épisode, c'est dans 1 Roi 17. Et avec Élisée, c'est 2 rois 4 et 2 rois 13. Mais nous, on va s'arrêter juste sur celui-ci, ce premier exemple. Donc, c'est une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, etc. Elle va avoir un enfant, et puis après, il y a une famine, etc. Donc, voilà, Élie va lui permettre d'avoir du pain et tout ça. Et puis ensuite, il va revenir et son fils meurt. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne reste plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» J'ai une réponse dure, hein, une question dure. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu infligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit dans la chambre haute, dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit « Voici, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Cette femme, elle avait déjà été, elle avait déjà reçu un témoignage fort, parce qu'il y avait un temps de famine, il lui restait juste un peu de pain et un peu de farine, pas de pain, de farine. Et puis elle dit, elle disait au prophète qui était venu chez elle, bah, on va juste manger ce petit morceau, puis on va attendre la mort avec mon fils. Et puis le Seigneur va bénir cette farine, cette huile, voilà, c'est l'huile. Et du coup, voilà, elle aura toujours en abondance, elle ne manque pas, donc elle a eu un témoignage très fort de l'amour de Dieu. Mais quand Élie revient chez elle, là, elle est si violente, elle est un peu agressive quand même. Enfin, elle est un peu... Là, elle perd son fils aussi, donc on peut comprendre sa tristesse, cette tragédie qu'elle vit. Mais à la fin, donc, Élie va ressusciter l'enfant, et à la fin, elle dit « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Pourquoi Dieu a permis cet événement tragique et cette résurrection aussi ? Pour que cette femme croit vraiment, quoi. Là, vraiment, là, elle croit maintenant. La farine et l'huile, c'est encore un peu juste pour sa foi. Là, maintenant, c'est avec la puissance de Dieu de la résurrection. Donc, trois résurrections dans l'Ancien Testament. D'accord ? Facile à se rappeler. Regardons maintenant dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des exemples de résurrection dans l'évangile ? Ouais. Combien, à votre avis ? Lazare ? La fille de Jairus ? Ouais, il y en a trois. Voilà. Facile à se rappeler, comme dans l'Ancien Testament, Trinité 3.
Dans les Actes, celui
qui est... J'ai dit les évangiles. Dans les évangiles, il y en a trois. Il y a la fille de Jairus.
Ah oui.
Voilà, le fils de la veuve de Naïm. Et puis Lazare.
Il y a des tombes aussi qui sont ouvertes.
Alors voilà, je vais venir après. Là, c'était pour les personnages. Voilà. En plus de la mort de la résurrection de Christ, hein, qui apparaît aussi dans le Nouveau Testament. Hein. Et puis, il y a aussi d'autres épisodes. Il y a à la mort de Jésus, il y a les saints qui ressuscitent et qu'on voit dans Jérusalem. Il y a d'autres personnes qui reviennent à la vie aussi. Mais dans les évangiles, il y a trois personnes autant identifiées, on va dire. Voilà, on pouvait savoir qui ils étaient. Fille de Jairus, la veuve de Naïm et Lazare. Clairement identifiées. Et dans le Nouveau Testament, dans le reste du Nouveau Testament, il y en a d'autres encore, effectivement. Véro, tu l'as dit. Ouais. Tu l'as dit, Véro, aussi, je t'ai entendu tout à l'heure.
Oui, celui qui est tombé de la fenêtre.
Voilà, c'est bon. Il y a un jeune homme qui était en train d'écouter une prédication qui s'est endormi. Je veille au grain, hein. Attention. Hein. Surveille bien pour ceux qui sont moins conscients que d'autres. Il y a aussi la résurrection de Tabitha, voilà, avec Pierre. Voilà. On va peut-être relire ce passage. Tiens, acte 9, versets 36 à 42. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, ce qui signifie gazelle, voilà, pour être précis. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, elle dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Voilà. Résurrection miraculeuse, hein, opérée par la main de Pierre. Et on voit la conclusion. Pourquoi, hein ? Bah, beaucoup crurent au Seigneur. On voit que c'est un instrument que Dieu utilise pour bah, c'est un instrument puissant. Hein. C'est pas juste Dieu qui... Allez, je vais ressusciter cette personne-là parce que voilà, celle-ci et pas une autre. Non, on voit à chaque fois qu'il y a toujours une conséquence derrière. Il y a un plan précis de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Hein. Pourquoi elle était malade ? Pourquoi elle est morte ? Pourquoi elle a ressuscité ? Parce qu'il fallait que beaucoup croient au Seigneur. Donc, trois dans l'Ancien Testament, trois dans les Évangiles, et puis plusieurs dans les Actes aussi qu'on pourrait compléter avec ça. Regardons maintenant, alors on a vu dans ce que dit la Bible de la résurrection en général. Combien il y en a ? Est-ce qu'il y en a des exemples dans l'Ancien Testament ? Oui. Dans les Évangiles ? Oui. Dans le Nouveau Testament ? Oui. Donc, a priori, pas de contestation sur le principe de la résurrection. Ensuite, lorsqu'on a un doute, là on n'en a déjà plus, mais surtout quand on a un doute sur un point de doctrine, que faut-il faire ? Regardez ce qu'a dit Jésus-Christ sur ce thème-là en particulier, toujours confirmer. Parce que l'Ancien Testament, parfois, c'est l'Ancienne Alliance. Il faut confirmer. qu'a dit Jésus par rapport à la nouvelle alliance à présent qui s'établit, parce que sinon, on peut se faire des doctrines sur la base de l'Ancien Testament, et on peut demain reprendre un sacrifice d'animaux, je peux arriver au Andou avec une grande robe de prêtre, avec l'urim, etc., on fera du tirage au sort avec des petites pierres, ça c'était l'Ancienne Alliance, à présent c'est la Nouvelle Alliance, donc il faut regarder toujours qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ sur ce thème-là. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait regardé qu'a dit le Seigneur sur le parler en langue. Parce que c'est important, il y a beaucoup d'églises qui ont cette doctrine-là, ce qui n'est pas la nôtre, et on avait regardé la Bible de la même façon, Ancien Testament, Nouveau Testament, qu'a dit Jésus-Christ, et on voyait bien, ben voilà, vous réécouterez le message si vous voulez sur le web. Il n'y avait pas que les chrétiens de Corinthe pour nier la résurrection à l'époque de Paul, hein, à l'époque des premiers disciples. Hein. Rappelez-vous, dans les évangiles, déjà, ça contestait beaucoup, hein. L'enseignement du Seigneur était remis un petit peu en cause, notamment par le Sadducéen, qui était un de groupe hein, religieux qui ne croyait pas à la résurrection des morts. Regardez, ils vont poser une question à Jésus, regardez sa réponse dans Luc 20, verset 27 à 38. Vous dites à des personnes, mon épouse Ruth me disait ça ce matin, il y a un journaliste chrétien qui est venu faire un reportage à Nice, et il s'est arrêté sur la promenade des Anglais, il a demandé aux personnes, est-ce que vous croyez en Dieu ? Alors oui, les gens croient en Dieu, lequel ? Celui qui est là-haut. Ouais, ok, bon, ça va. J'ai jamais entendu un Dieu ailleurs que là-haut, même dans toutes les religions. Dieu, en général, il est au ciel. Donc, vous croyez en Dieu ? Oui, lequel ? Celui qui est là-haut. Ok, ça, c'est plutôt... Ça commence à être un bon élément de réponse. Croyez-vous en Jésus-Christ ? Oh là là, c'était plus compliqué, là. Il y en a un qui a répondu, oui, ma femme, oui. Sauvé par sa femme, un peu juste. Et ensuite, la question, c'est voilà, c'est dire Dieu, il est où ? Est-ce que vous croyez en Dieu ? Hein ? Jésus-Christ, il y en a qui disent oui. Alors, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Comment ça coince un peu ? Qu'il est ressuscité des morts le troisième jour ? Là, ça commence vraiment à coincer pour certains. C'était le cas des Sadducéens. Alors, eux-mêmes, Dieu, ça allait, mais alors Jésus-Christ, pas du tout. Et la résurrection, encore moins. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Alors, évidemment, c'est la question peau de banane. Seigneur, glisse dessus. Hein, c'est un peu ça. Hein. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Bon, c'était dans la loi, en effet, hein, de l'ancienne alliance. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria, mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme, car les 7 l'ont eue pour femme ? Ah, Seigneur, là, t'es mal, hein, tu vas être challengé, là, tu vas falloir que tu répondes, là. On t'a bien amené le truc, c'est un peu subtil, là. Et Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, très bien, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Voilà, le Seigneur a répondu au sujet. C'est très clair, pour le Seigneur, bien sûr qu'il y a résurrection des morts, et c'était très clair pour lui, dit, prenez l'exemple de Moïse, hein, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, ils ne sont pas morts. Pour Dieu, ils sont vivants, parce qu'ils sont nommés comme ça. Alors pour nous qui croyons que nous serons avec Christ après la mort, vous avez bien vu que le Seigneur dit « Pour ceux qui seront jugés dignes de la résurrection des morts, sous-entendu, vous les Sadducéens ?» Voilà. Remettez-vous en question parce que... Voilà. « Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection des morts. » Donc sous-entendu, les Sadducéens, ça fait une petite bombe à retardement dans la tête en disant « Ah, peut-être qu'il parle de moi, là. » En tout cas, j'espère que vous avez donné votre cœur au Seigneur. Si vous... Est-ce que vous pouvez dire « Amen » si je dis « Est-ce que vous serez vivant après votre mort avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel ?» Vous pouvez le dire « Amen ». Alors, ce passage est aussi pour vous. C'est intéressant, il montre notre état, hein, comment on sera après la mort. C'est intéressant aussi. Hein. On se mariera pas. Voilà, on se mariera pas. Bon, c'est peut-être mieux comme ça diront certains. En tout cas, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, le mariage sur terre et pas de mariage dans le ciel, c'est ainsi. En tout cas, nous ne marierons plus, nous ne mourrons plus. Voilà, vous avez vu, hein, il le dit clairement, voilà, nous ne mourrons pas. Donc dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule mort, après quoi vient le jugement, il n'y a plus rien après. Hein, on reste dans la vie éternelle avec le Seigneur. Et alors, on sera pleinement enfants de Dieu, car nous serons les enfants de la résurrection, dit-il. Waouh, alors, Je ne vais pas trop débattre là-dessus, trop ouvrir là-dessus. Il y a encore une grande part de mystère par rapport à, vous savez, le homme, femme, etc. dans le ciel. Voilà, il y a des débats là-dessus. Je ne vais pas y rentrer. Il y a beaucoup de mystère par rapport à ça. On va laisser la part de mystère pour aujourd'hui. On fera peut-être une prédication une prochaine fois là-dessus. En tout cas, ce qui est très clair par rapport à la prise de parole du Seigneur, c'est que les morts reviennent bien à la vie. Donc pour le Seigneur, il y a bien une résurrection des morts. On vient de voir ce que la Bible dit en général sur la résurrection des morts. On a vu ensuite ce que Christ a dit de la résurrection. Donc on a à peu près notre doctrine qui est en place à présent. Mais pour être au clair, il faut regarder aussi à présent ce que dit la Bible précisément sur la résurrection de Christ, parce que le point est évoqué ce matin. Donc, résurrection des morts, oui, c'est un fait. Christ l'a confirmé. A priori, tout va bien. Maintenant, que dit la Bible du point aussi qui posait souci, c'est la résurrection de Christ. Premièrement, cette résurrection de Christ, elle avait été prophétisée dans l'Ancien Testament. Il y aurait plusieurs passages. J'en mentionne un avec vous, le psaume 16, particulièrement le verset 10. Ça saute peut-être pas aux yeux, mais quand on connaît suffisamment la Bible, on va le voir. C'est un psaume, le psaume 16, qui pourrait être des paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Psaume 7, à partir du verset 1. Psaume 16, voilà. Quand on lit ces versets, on pense au Seigneur, on dit que ces paroles pourraient venir de sa bouche. « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. » Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Pardon. Ainsi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Et le verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et verset suivant, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Vous voyez, tu ne permettras pas que mon corps voie la corruption. Et ensuite, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et ensuite, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a la vie qui suit après. Et puis on parle d'éternité, des délices éternels à ta droite, voilà. On nous voit ici assez clairement, personnellement je le vois, le fait que le corps de Christ n'ait pas été décomposé et s'est repris après plus loin dans le Nouveau Testament. Et Jésus l'avait annoncé également, il avait annoncé à ses disciples, il avait dit « Je ressusciterai ». Vous connaissez ce passage dans Matthieu 20, versets 17 à 19. Donc l'Ancien Testament en parle, prophétie sur Christ, Christ lui-même le dit. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, Matthieu 20, verset 17, il prit à part les 12 disciples, la garde rapprochée, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. » Et là, il annonce la suite, « Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Donc, Christ avait dit clairement les choses par rapport à sa résurrection. Que dit la Bible sur la résurrection de Christ? Elle est prophétisée. Christ lui-même l'avait annoncé. Il l'avait dit avant sa mort. Et pourquoi? Pourquoi cette résurrection? Vous allez voir dans Romains 1, versets 2 à 4, le pourquoi de cette résurrection. Christ meurt d'accord pour nos péchés. Et pourquoi il ressuscite? Romains, chapitre 1, versets 2 à 4. Cet évangile, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, donc c'est un être humain, a priori, mais déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la résurrection de Christ, pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle proclame qu'il est fils de Dieu. Il n'est pas juste descendant de David selon la chair. Ah oui, au temps de Jésus, on le connaissait comme le fils de Joseph, le charpentier. N'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier? C'est un homme comme nous. Oui, mais sa résurrection lui donne le titre de fils de Dieu et avec puissance. Donc il est bien le fils de Dieu et c'est ce que va confirmer sa résurrection. Donc le Père agit puissamment dans la résurrection de son Fils. Et on va voir, on va faire une petite parenthèse, vous allez voir que dans le principe, dans le processus de résurrection de Christ, il y a la Trinité qui est à l'œuvre en fait. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui interviennent tous les trois. Regardez avec moi le Père d'abord, Romains 6 à 4. Romains 6, verset 4. Jésus ressuscite et le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été à l'œuvre. Romains 6, verset 4. Ça parle, là, on utilise toujours ces versets pour les personnes qui vont se baptiser, pour dire qu'on est à l'image de Jésus-Christ quand on se baptise. C'est un peu l'image de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, Jésus-Christ, il est ressuscité des morts par quoi ? Par la gloire du Père. Donc, il y a le Père dans sa gloire qui intervient pour la résurrection de son Fils. Donc, le Père est là, déjà. Le Fils, ensuite. Jean, chapitre 2, versets 19 à 22. On revient au temps de Jésus, dans les évangiles. Il est avec des Juifs, il est avec des apôtres, et puis, on lui fait... certains discours, et Jésus répondit « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple-là. Toi, en trois jours, toi, tu vas le relever ?» Mais Christ parlait du temple de son corps. Vas-y, si tu vas bien avancer. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, si tu veux revenir au verset 19... Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours, je le releverai, le Fils. Donc là, le Fils est à l'œuvre aussi sur la résurrection. Et puis il manque la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Et bien c'est Pierre qui va nous parler de cette action. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Donc Jésus-Christ ressuscité par la gloire de Dieu, Christ le Fils qui dit, je le releverai ce corps. Et 1 Pierre 3, 18. Pierre nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. » Et là, on voit le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont intervenus dans le processus, dans la gloire de la résurrection du Seigneur. Il était ressuscité par la gloire de Dieu. Christ a dit « Je le releverai mon corps en trois jours. » Et là, on voit qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit. S'il y a des parts de mystère, il y en a pour nous tous. Hein, et quand on sera au ciel, on comprendra bien comment un Dieu peut être en trois personnes. Voilà, ça nous échappe encore. Et pourtant, c'est ce que dit la Bible. En tout cas, cette résurrection de Christ est un des piliers de l'Évangile. Hein. Si on ne peut pas comprendre le salut pleinement, on ne peut pas comprendre le plan de Dieu pour les hommes, si on écarte la résurrection du Seigneur. C'est clairement dans le plan. Il y a la naissance de Christ qui est miraculeuse, il y a sa vie qui est sainte, il y a sa mort qui est puissante et sa résurrection qui confirme hein, qu'il est fils de Dieu. Hein. Alors, trois choses à faire, vous l'avez compris, quand on a un doute sur un point de doctrine. On n'est pas sûr comment c'est la résurrection des morts, je ne sais pas, l'enlèvement de l'Église avant, après, millénarisme, tout ça, parfois des thèmes un peu compliqués, ou d'autres choses, hein, d'autres thématiques qui pourraient être voilà, les vôtres. Donc, trois choses à faire. D'abord, vous regardez ce que dit la Bible au sens large sur ce thème. Ensuite, vous regardez ce que dit la Bible sur ce thème en particulier. Voilà, nous, c'était la résurrection des morts en général, la résurrection de Christ ensuite. Et que dit le Seigneur sur ce thème-là ? Parce qu'attention à ne pas tirer des doctrines depuis des textes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, on pourrait faire des erreurs. Il ne faut pas contester ce type de doctrine comme la résurrection, parce que ça a beaucoup d'impact sur votre foi, votre salut. Hein. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, et c'est pour ça qu'il prend du temps, il détaille bien, il décortique bien son texte, et il dit, regardez, on va revenir sur les versets 14 à 19. Il va dire, attention, parce que si vous ne prenez pas la résurrection, c'est un menu, c'est pas à la carte. Il y a l'entrée, plat, le dessert, on prend tout. Naissance, mort, résurrection. C'est pas la carte, je pioche un peu, je prends juste la naissance et puis après Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Ou je prends juste la mort, mais je prends pas la résurrection parce que j'ai pas bien compris. Paul, il va leur dire, voilà le menu en trois étapes, plat, entrée, plat, dessert, il faut tout prendre. C'est pas on choisit, quoi. Parce qu'il leur dit, sinon, vous allez voir que vous allez mal manger, finalement, vous allez pas bien comprendre. Si Christ n'est pas ressuscité, voilà ce qui se passe. Ben, notre prédication est vaine, donc je suis en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure. Votre foi aussi est vaine, mes amis, vous pourriez rentrer chez vous, aller regarder téléfoot si vous aimez le sport. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. En plus, on est des faux témoins. On dit Christ a fait, Dieu a fait quelque chose qui ne serait pas vrai. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc il n'est pas ressuscité, il est resté mort. Et s'il n'est pas ressuscité, bah, notre foi est vaine. On est encore dans nos péchés, donc on est encore sous la colère de Dieu. Et par conséquent, si ceux qui sont morts en Christ sont perdus, donc tous ceux qui nous ont précédés, les croyants, bah, ils sont aussi encore dans leurs péchés, ils ne sont pas sauvés. Oh, c'est triste, hein, tout ça. C'est sombre hein, comme tableau. Hein. C'est très sombre comme tableau. Hein. La résurrection de Jésus, c'est une vérité fondamentale. Il a été livré pour nos fautes, ressuscité pour notre justification. Et Paul, il l'avait dit aux Corinthiens un petit peu plus tôt, il leur avait donné des exemples. Il avait dit, il y a des personnes qui l'ont vu ressusciter, vous pouvez aller leur poser la question. Vous vous rappelez, il y avait sept. Il y avait sept témoignages que les Corinthiens pouvaient approfondir pour être sûrs que Dieu avait bien ressuscité Jésus-Christ. Il y avait tout d'abord, il y avait les Écritures. Il leur disait, selon les Écritures, Christ est ressuscité selon les Écritures. Donc, premièrement, regardez votre Bible. Hein, vos textes, du moins à l'époque. Ensuite, il disait, il est apparu à Céphas. Donc, vous pouvez aller voir Pierre, vous le connaissez, Pierre. Il est déjà venu ici, Pierre, à Corinthe. Il est déjà prêché chez vous, vous le connaissez. Vous... Posez-lui la question. Pierre, il l'a vu ressuscité. Ensuite, il est apparu à Pierre, puis aux 12. Les 12, ils sont encore vivants. Vous pouvez leur poser la question. Ensuite, il leur avait dit qu'il y avait un groupe de 500 frères et sœurs, dont certains sont encore vivants. Vous pouvez poser la question aussi à ceux-là. Ensuite, il est apparu à Jacques, le frère dans la chair de Jésus, c'est ce qu'on avait vu. Ensuite, à tous les apôtres, tout le groupe. Et ensuite, à moi, Paul, qui suis le dernier. Donc, il disait, voilà, vous avez au moins sept témoignages que vous pouvez aller interroger, scruter, etc. Vous aurez confirmation de cela. Pourquoi c'est important? Pourquoi Paul, il insiste autant? C'est très important pour lui. Parce que, on l'a vu, s'il ne croit pas dans la résurrection des morts, il dit juste, ok, Christ, fils de Dieu, très bien, Dieu lui-même, mais pas ressuscité. Bah, ça veut dire que si on ne prend pas ça, ça veut dire que toute la Bible est fausse en fait. C'est pour ça que c'est important de bien être au fait sur certaines doctrines, même si certaines sont difficiles et on n'aura peut-être pas une réponse sûre, même jusqu'au dernier jour avant notre départ. Mais c'est pour ça que c'est important de pas être précis dans la doctrine, parce que si on rate un petit quelque chose, bah, là, la conséquence, Paul le dit, c'est que toute la Bible est fausse en fait. Ça veut dire que soit en fait, elle a été écrite par des hommes, donc il y a des erreurs à l'intérieur, soit c'est Dieu qui est un menteur. Il nous a dit des trucs qui ne sont pas vrais. La Bible parle de résurrection des morts. Si ce n'est pas vrai, c'est que Dieu est un menteur. Si c'est nous qui le comprenons mal et qui le prêchons, ça veut dire que nous sommes des menteurs. Donc la Bible contient des erreurs. On va s'appuyer sur un texte pour notre salut alors qu'il y avait des erreurs. C'est ça le problème. C'est que s'il contestait la résurrection qui avait été prophétisée, trois cas de résurrection dans l'Ancien Testament, la résurrection de Christ avait été annoncée aussi, etc. Si eux contestaient, comme des Sadducéens, c'est comme un maillon, hein, la chaîne du salut. Hein. Si on casse un maillon, c'est comme une chaîne. Si on casse un maillon, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez quand vous faisiez du vélo? Ça vous arrivait, le truc, vous dérailliez ou un truc comme ça, ou vous cassiez une maille de la chaîne? Hein. Bah, vous ne pouvez plus avancer, quoi. Allez, il faut réparer. Il faut remettre le maillon. Si on remet en cause ça, on remet en cause toute la doctrine du salut. Paul le dit, si Christ n'est pas ressuscité, je prêche pour rien depuis tout à l'heure. Votre foi, les amis, est inutile. On est tous des faux témoins, hein, voilà. Ceux qui sont morts, ils sont encore dans leur péché. Et ceux qui sont morts, nous sommes encore dans nos péchés, pardon. Et ceux qui sont morts en Christ sont toujours perdus. Tableau bien sombre, tableau bien sombre. Alors si on peut faire la bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine, et on peut prendre la même phrase, mais on va la tourner de façon positive. Si Christ est vraiment ressuscité, est-ce que Christ est ressuscité? Amen. Alors si Christ est ressuscité, la prédication de l'évangile est pleine de puissance. Voilà, la prédication n'est pas vaine. Au contraire, la prédication de l'évangile est pleine de puissance. Notre foi, elle est utile. On a raison de croire, mes amis, si Christ est vraiment ressuscité. On est des vrais témoins vis-à-vis de Dieu, si Christ est vraiment ressuscité. Quand on prêche, quand on partage notre foi, nous sommes de vrais témoins vis-à-vis de Dieu. Vous vous rendez compte de l'autorité qu'on a? Attention, c'est important, hein. Si Christ est vraiment ressuscité, nous ne sommes plus dans nos péchés. Vous avez donné votre cœur à Christ? Vous êtes sûr de ne plus être dans vos péchés? Ça y est, tout est pardonné. Mais il faut que Christ soit ressuscité. Et si Christ est ressuscité, alors ceux qui sont morts en Christ sont sauvés. Ils ne sont plus morts aujourd'hui sans avec le Seigneur. Voilà. Ça change tout quand même, la perception des choses, non? On était dans un côté où finalement tout est noir, blablabla. Et puis là, finalement, si on met la phrase de façon positive, on dit « Ah oui !» La prédication, elle est utile. Ma foi est utile. Voilà, ceux qui sont morts avant moi sont vraiment avec le Seigneur. Et moi, quand je vais mourir, je vais être vraiment avec le Seigneur. Et en attendant, il faut que je partage ma foi parce que je suis un vrai témoin vis-à-vis de Dieu, quoi. J'ai une vraie responsabilité quand je partage le message de l'Évangile. Le fait que Jésus soit ressuscité, donc c'est la preuve que Jésus a vaincu la mort à Golgotha et que nous pourrons passer l'éternité à ses côtés, mes amis. Est-ce que vous avez hâte d'être au ciel avec le Seigneur ? Moi, j'ai hâte, hein, personnellement. Je ne sais pas combien de temps, mais ça, voilà, Seigneur, reviens, quoi. Et bien, c'est l'espérance que nous invite à suivre notre frère Paul. Regardez, en conclusion de son argumentaire, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est juste pour cette vie-là qu'on a le Seigneur, on est les plus malheureux. Bah pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien après, quoi. Pourquoi ? À quoi bon, quoi ? S'il n'y a rien après, venez pas à l'église le dimanche matin, faites autre chose, quoi. Restez pas cet après-midi pour voir le film, parce que vous allez perdre votre temps, quoi. Franchement, s'il n'y a rien derrière, faites autre chose, quoi. Hein ? Et cet après-midi, il y a un très bon film chrétien, alors je vous invite à rester, vous allez voir, il y a un très beau témoignage à l'intérieur, ça va être magnifique. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais alors on peut la relire de façon positive. Si ce n'est pas pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus heureux de tous les hommes. Waouh, amen, non ? Regardons les gens dehors, ils ont l'air tellement plus heureux des fois. Hein, on s'est dit, ils reviennent, ils ont fait la fête, ils sont contents, ils sont 3h du matin, ils sont sous vos fenêtres en train de chanter, de danser avec la musique à fond, et vous dites... Si j'étais pas chrétien, je balancerais bien un seau d'eau froide par-dessus la fenêtre. À quelle heure ils vont s'arrêter, voilà. Mais ils ont l'air tellement plus heureux, non ? En apparence. Mais si c'est comme ce n'est pas pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est qui les plus heureux des hommes ? C'est les chrétiens, les amis. C'est nous les plus heureux des hommes. Voilà. Alors, je vais conclure. Hein. Le thème de la résurrection, vous l'avez compris, c'est un thème central de la Bible. Hein. Cette doctrine, elle est vraiment super importante. C'est l'un des maillons de la chaîne du plan du salut de Dieu pour les hommes. Si vous cassez un maillon, vous cassez toute la chaîne. Donc, c'est très important de bien comprendre la résurrection du Seigneur. Je ne sais pas si c'était votre cas, si vous aviez tout compris. En tout cas, j'espère que c'était beaucoup plus clair à présent. C'est la raison pour laquelle l'ennemi veut toujours amener un peu de confusion. Il joue entre résurrection et réincarnation pour essayer de jouer un petit peu sur la sensibilité des mots, là. À Corinthe, c'était pas clair. Les Sadducéens, c'était pas clair. Corinthe, c'était pas clair non plus. On a pris leur exemple, du coup, vu qu'ils contestaient une doctrine, on a dit, bah tiens, nous aussi, des fois, parfois, on n'est pas d'accord avec une doctrine d'un prédicateur, ou voilà, on dit, oh, je suis pas d'accord, hein, enlèvement de l'Église, tout ça, hein. Pas clair, parler en langue, guérison, exorcisme, je ne suis pas trop clair là-dessus. Alors, on regarde bien la Bible. Alors, que dit la Bible en général sur cette doctrine-là ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Dans notre cas, c'était la résurrection des morts. On est en entonnoir, on prend large au départ. Donc, est-ce qu'il y a des résurrections dans l'Ancien Testament ? Oui, 3. D'accord. Donc, il y a des cas de résurrection. Dans le Nouveau Testament ? Oui, les évangiles, 3 résurrections. D'autres cas dans les actes aussi. Pas de contestation a priori sur le thème de la résurrection, c'est assez clair. La résurrection de Christ, est-ce que Christ, lui, est bien ressuscité ? Alors que les morts ressuscitent, d'accord, mais est-ce que Christ est ressuscité ? Pas de problème, ça avait été prophétisé, Jésus l'a dit aussi, c'est confirmé, et ça proclame qu'il est le Fils de Dieu, donc on voit bien que c'est la progression comme ça, et c'est le plan du salut. Donc, que dit la Bible en général sur la doctrine, en particulier sur ce point-là ? Et ensuite, à la fin, qu'a dit Jésus-Christ ? Est-ce que son enseignement confirme bien tout ce qu'on a compris ? Oui, pas de contestation possible, il a dit aux Sadducéens. Voilà, les morts ressuscitent, bah c'est ce que Dieu a dit, hein. C'est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts, donc bien sûr que la résurrection. Donc contester une doctrine, ne pas la comprendre, c'est une attitude naturelle, alors donc il faut qu'on ait cette démarche effectivement de bien toujours sonder les Écritures, parce que sinon ça pourrait remettre en cause notre compréhension de la Bible, on pourrait être ensuite donner des faux témoignages, et finalement tromper un peu les autres quelque part, donc soyons prudents. Heureusement, mes amis, que Christ est mort pour nous. Hein. Sinon, on serait les plus malheureux de tous les hommes. Mais heureusement, il est mort pour nous. Il est mort, mais bien plus, comme on dit à Pâques, il est ressuscité. Voilà, le Seigneur est ressuscité. Il est assis à présent à la droite de Dieu. Il nous a préparé une place avec lui pour l'éternité. Seigneur, ça fait 2000 ans. Il est en train de bien préparer les choses. Il est en train de faire ça aux petits oignons, les amis. Il a mis 7 jours pour faire tout l'univers. Il met 2000 ans pour faire le ciel qui vous attend. Vous imaginez le délai. Hein. Ça va être magnifique. Hein. On n'imagine pas. Hein. 7 jours pour faire tout, et là, 2000 ans pour vous mitonner votre petit endroit céleste. Est-ce qu'on n'est pas les plus heureux tous les hommes ? Ah oui, hein. Voilà, j'espère que ce message vous a encouragé en attendant le retour du Seigneur lorsqu'il viendra nous chercher. J'espère que ce sera aujourd'hui. Et s'il tarde un peu, voilà, on aura l'occasion la semaine prochaine d'approfondir ce passage. C'est Andou qui prêchera et qui aura justement l'occasion de vous parler du retour du Seigneur. On va prier pour conclure. Seigneur, voici un enseignement bien clair, Seigneur, sur la résurrection. Du moins, le tien est clair. J'espère que le mien l'était aussi. Mais toi, en tout cas, tout ce que tu as dit est très simple, très clair. Oui, il y a résurrection des morts. Et oui, Jésus-Christ est ressuscité. Il est même le premier né d'entre les morts, Seigneur. Et c'est cette image que nous voulons conserver. C'est ce Dieu fait homme qui vient pour nos péchés, qui vient les porter sur la croix et qui meurt à notre place, pour nous. Mais c'est aussi cet homme qui devient Dieu, pleinement fils de Dieu par la résurrection, cet acte de résurrection qui confirme qu'il est bien fils de Dieu, parce qu'il est vraiment ressuscité, Seigneur. Tu nous attends à présent au ciel, Seigneur, tu nous fais une place, 2000 ans, et nous avons tellement hâte que tu reviennes nous chercher, Seigneur. Mais nous savons aussi que c'est un temps de patience, et tu le veux ainsi, et c'est bon, parce que tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme dit ta parole. Nous prions pour le salut des âmes, Seigneur. Peut-être que ce matin, certains n'étaient pas encore en paix avec toi, n'avaient pas encore compris que tu étais mort pour eux. Peut-être ceux qui écoutent le message aussi par Internet. Seigneur, je te prie de toucher leur cœur encore, de les aider à grandir dans la doctrine, Seigneur, du salut. Seigneur, apprends-les aussi à bien sonder les Écritures pour bien comprendre. Seigneur, nous attendons ton retour. Et en attendant, nous prions pour que le plus grand nombre vienne à toi, Seigneur. Parce que, oui, tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que ton nom soit béni, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
On va chanter un dernier chant. C'est...